Génération Prestart. Génération Prestart. Try again. Try again.
Bonsoir et bienvenue dans la deuxième heure de Génération Prestart. Merci à Vincent et Clotilde pour cette première heure pleine d'actualités, pleine de news, pleine de tout ce qu'il faut, comme toutes les semaines. Nous, cette semaine, dans Try Again, on a envie de revenir sur un jeu d'arcade qui a beaucoup marqué les esprits, surtout un ici dans la salle. Bonsoir Ellie.
Salut à tous.
Bonsoir aussi, vous qui sont toujours là, toujours avec moi. Excusez-moi, j'ai oublié de te présenter. Qu'est-ce que je fais de n'importe quoi aujourd'hui? Bonsoir Lionel.
Salut Martin, salut à tous.
Bonsoir Nelly, ta dernière, toujours là, toujours
présente. Bonsoir, toujours présente, mais toujours ouais, motivée.
Bien. Toujours souriante.
C'est parfait. Et donc ce soir, on va parler de Double Dragon, un mythique jeu d'arcade qui a eu de nombreux portages, et c'est Ellie qui a choisi ce titre-là. Alors, la première musique qu'on va écouter après, elle a été composée par... excusez-moi, j'ai plus rien, c'est encore une fois du japonais, c'est pas de ma faute.
Kazunaka
Yamane. Et c'est l'opening theme, c'est le début du jeu. Alors, on s'écoute tout de suite ou tu veux dire un petit truc avant, Ellie?
Non, on peut y aller.
Ok, non, mais c'est toi le maître de la soirée, hein, c'est toi le chef ce soir. Alors.
Ouais, cool.
Ok, on va y confronter des boss, des abobos. Et venez sur Facebook, enfin sur notre Facebook à nous, parce qu'on aime bien ça aussi, et sur notre forum. Mais je vous le redirai encore après.
M57 Radio. M57 Radio.
Try again. Après ce petit end bien funky, on est de retour dans Try Again. Je vais laisser la parole à Lionel qui va nous parler de
Bruce Lee.
C'est vrai, j'ai pas lancé le programme la soirée. Moi,
t'es un peu à la dèche, mais c'est pas grave.
Il y a des jours comme ça, des jours avec, des jours sans. Vas-y, Bruce Lee.
Bon, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Bruce Lee dans les jeux vidéo. Mais pourquoi, me direz-vous, on va faire une émission sur Double Dragon, quoi? Eh bien, parce que qui de mieux que le petit dragon peut nous mener dans le monde de Double Dragon? Forcément.
Quelle intro! Magnifique!
On est d'accord. Donc, le mythe des arts martiaux qui est Bruce Lee, il a quand même réussi à poutrer Chuck Norris quand même, c'est pas rien.
Ouais.
Hein, donc, a forcément influencé l'univers des jeux vidéo. En 84, nous avons eu droit, par exemple, à un Bruce Lee sur Atari, Amstrad CPC et autres. Un jeu sans musique, mêlant plateforme et réflexion, où Bruce Lee en fait sera poursuivi pendant tout le jeu par deux personnages qui respawneront en fait indéfiniment, même si on arrive à les battre. Donc en fait c'est plutôt de l'esquive, enfin de la plateforme, de la réflexion et
moi je l'ai fait le jeu. Ouais.
Et franchement, bon c'est un petit jeu tout simple, vraiment très dépouillé. Hein, comme je disais, il n'y a pas de musique, l'environnement est très réduit, ouais. C'est vraiment très cheap. Mais le jeu est sympa, enfin il y a vraiment y a une ambiance quand
donc
même.
Donc les deux ennemis c'était un sumo vert,
ouais,
et un espèce de samouraï tout noir avec un sabre.
C'est ça. Et Bruce Lee est jaune quand même, mais jaune quoi, jaune citron
comme dans les Simpsons.
Comme Pac-Man, ouais, comme dans les Simpsons.
En fait, tu pouvais jouer à deux et le deuxième player à ce moment-là,
il jouait un des méchants.
Ouais, voilà, il jouait je crois le sumo.
T'es sûr que c'était le sumo, c'était pas le ninja? Je sais plus. Ouais, Donc voilà. Plus tard, en 95, on aura droit à un Dragon's Bruce Lee Story sur SNES et Mega Drive, un jeu de baston 2D à la Street Fighter,
inspiré du film.
Qui permet en fait aux joueurs d'incarner Bruce Lee dans un soft qui nous montre un Bruce Lee au mouvement extrêmement fidèle à l'original, avec en prime la possibilité de changer de style au cours de combat. On peut par exemple combattre avec un nunchaku, changer un peu de style d'arme ou de choses comme ça, quoi. Seul petit ombre au tableau, c'est un ombre au tableau ou pas, mais vous pouvez en fait jouer qu'avec Bruce Lee, quoi. Donc c'est un jeu de baston.
Sauf quand t'es en multijoueur, tu peux jouer à 3 en même temps.
D'accord.
Ça c'est super par contre. Tu peux vraiment t'éclater à 3 simultanément, un peu comme dans un Smash Bros, sauf que là c'est plus un jeu
Ouais, c'est du Street Fighter mais à 3. Ouais, c'est pas mal dans l'esprit quoi. Mm-hmm. Mais bon, franchement, le jeu est assez beau quoi. Enfin franchement, je trouvais que les graphismes étaient bien sympathiques.
Ah, il tient la route hein.
L'animation du personnage, elle déchire pas mal quand même, quand on connaît un peu les Bruce Lee, qu'on a déjà vu pas mal de films et tout. C'est assez fidèle à l'original quoi. Donc malheureusement, c'est pas toujours des bons jeux qui sortent, hein, puisqu'en 2002 sort Dragon Quest of the Dragon sur Xbox, donc un beat'em all 3D très moyen qui rendra pas vraiment hommage au maître. C'est un jeu pas très évolué. Bon, il y a une histoire originale apparemment, mais bon, c'est pas vraiment grandiose a priori, c'est très répétitif. C'est pas un des meilleurs jeux qui rendra hommage à Bruce Lee quoi. En 2003, Bruce Lee Return of the Legend sur GBA, donc vient rejoindre le rang des jeux dédiés à la légende des arts martiaux. C'est un jeu en fait mélangeant plateforme, infiltration et beat'em all. Faut pas déconner, hein, c'est quand même Bruce Lee quoi.
Ah ouais, quand même.
Ah bah ouais.
Hein, bon voilà,
c'est un puzzle game. Hein.
Donc en fait, c'est une histoire originale créée pour le jeu, et en fait c'est plus ou moins. C'est une histoire, c'est comme un film en fait. C'est-à-dire c'est Bruce Lee en fait. Il vous annonce Bruce Lee dans le rôle du personnage du jeu en fait. Donc c'est comme dans un film où il incarnerait un rôle défini quoi. Alors c'est une bonne surprise en fait, qui se rapproche un peu de mon goût d'un Dragon Ball Adventure dans le style du jeu en fait. Pour ceux qui ont déjà fait Dragon Ball Adventure sur GBA,
ah ouais, il est très bon.
Qui est un super bon petit action plateforme beat'em all quoi, bien sympathique. Franchement, c'est un peu dans le même style, avec le côté en fait un petit peu infiltration en plus, puisque en fait le personnage peut parfois se cacher dans l'ombre et laisser passer un ennemi pour soit le prendre à revers, soit tout simplement l'éviter quoi. Donc c'est assez sympa, franchement assez original. Mais donc à ces jeux dédiés aux petits dragons, il faut ajouter aussi tous les personnages dont l'inspiration relève parfois presque de la copie quoi. On entra par exemple Fei Long dans Street Fighter 2.
C'est le cousin en fait de Bruce Lee.
Ouais, il dédie carrément ça l'histoire du jeu.
Ouais.
Enfin bon, c'est vraiment au niveau du physique,
des mouvements,
qui fait les vibrations
des cris et tout ça, c'est vraiment. C'est vraiment un hommage quand même à Bruce Lee. Lo de Tekken,
ouais,
est quasiment un clone à lui tout seul quoi. Mais on notera comme ça des dizaines de personnages ayant subi en fait l'influence de Bruce Lee dans le monde du jeu vidéo, preuve incontestée quand même de la domination de ce dernier sur le genre, même 30 ans après sa mort quand même, parce que bon, il y a certains même des jeux qui sont sortis, Bruce Lee est mort en 73. Les premiers jeux quand même, c'était plutôt 80, dans les années 80.
C'est ce que j'étais en train de me demander, en quelle année il était né et en quelle année tous ces jeux.
Il est né dans les années.
Il
est mort dans les années 70, ça prend une trentaine d'années.
On l'a pas connu en fait.
Pendant un tournage.
De son vivant.
Nous, on l'a pas connu de son vivant.
On n'est pas si vieux que ça finalement.
On n'est pas tant dinosaures que ça par rapport.
On est des jeunes. Attends.
Des jeunes. Des dinosaures de jeux vidéo.
Un autre personnage qui reprend beaucoup des mouvements de Bruce Lee, c'est Maxi dans Soul Calibur.
Ouais.
Avec les nunchaku. Alors au niveau physique, on peut pas dire que c'est vraiment ça, hein, parce
c'est
que Maxi, c'est un peu plutôt
Elvis. Ouais.
C'est un Elvis Bruce Lee en fait, quoi, un mix de Elvis avec Bruce Lee.
Ils ont mixé deux légendes comme ça ensemble, ils ont fait une marmite.
simple.
C'est
ça, c'est l'alchimarmite dans Dragon Quest. Ils ont mis les deux et ça ressort un truc unique. Non, enfin, franchement, on en note comme ça des tonnes. Je sais pas si vous avez aussi, vous, des exemples comme ça qui vous viennent à l'esprit, mais c'est vraiment...
T'as cité les plus marquants pour moi, donc là, j'en ai pas d'autres directs, mais je suis persuadé qu'il y en a plein.
Il y en a eu énormément. Je veux dire que je pense que de toute façon, à partir du moment où on voit un maître du kung-fu et voilà, avec un peu des arts martiaux, avec un physique un peu très sec, très musclé, ça rappe. Et le cri, je veux dire.
Les cris, c'est surtout ça.
Voilà, les cris à la Bruce Lee, c'est vraiment.
Marquant. En attendant, on va s'écouter une petite musique. C'est High Mirror of the Black Warriors, alias City Slum. C'est toujours composé par Katsunaka Yamane. Et après, c'est Ellie qui nous parlera de Double Dragon.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine.
Voici de retour pour le Versus Mode. J'espère que ça s'affiche bien sur le chat parce qu'on essaye d'y être quand on est disponible, quand on est là. On n'est pas toujours disponible, mais quand on est là, on est bien y être pour discuter avec vous des jeux, de ce qu'on raconte en même temps qu'on est là.
Et de vos anecdotes personnelles aussi, à vous aussi.
Ouais. Parce qu'on aime bien vos anecdotes perso. Ellie.
Alors moi, je vais vous parler, comme vous en doutez, de Double Dragon. Donc le beat'em all qui est sorti sur arcade, qui a été développé par Tecno en 87, qui a été édité par Tecno au Japon également et par Taito dans le reste du monde. C'est le successeur spirituel de Renegade qui est sorti en 86, un peu dans le même genre. Voilà, alors les nouveaux apports de ce jeu, qu'est-ce qu'il apporte finalement à la série des beat'em all? Alors tout d'abord, graphiquement, ça donne une claque pour l'époque, parce qu'on est quand même en 1987. Alors le jeu est très coloré, très très joli à voir. Ben, pour le monde d'arcade, c'est très important, parce que pour que les gens aient envie de mettre une piécette dedans, ben, il faut que le jeu il flash, il cogne.
C'est vrai.
Ouais.
C'est comme de la pub, quoi.
C'est un peu ça, ouais. C'est très important pour eux. Il y a aussi un effet de profondeur qui a été mis dans le jeu. C'est pas de la vraie 3D, mais on peut monter, descendre, avancer, reculer, sauter. Donc à l'époque on disait oh putain le jeu il est en 3D et tout. Non, pas du tout, mais c'est quand même une impression de profondeur. C'était déjà le cas dans Renegade, mais c'était assez rare pour être souligné. Le nombre d'armes, sinon il y a pas mal d'armes, on reviendra dessus tout à l'heure, mais un petit peu la vigilante sur arcade qui lui était en pur 2D, là on trouve pas mal d'armes. Il y a une grosse nouveauté, c'est l'apparition du deuxième personnage quand on veut. Par exemple, on joue, on est en galère, on dit hey, t'as pas une pièce, tu veux pas m'aider? Il met la pièce, hop, Deuxième crédit, il appuie et il apparaît à n'importe quel moment dans le jeu.
Ça, je trouve que c'est un principe génial de la borne d'arcade quand même, quand on peut le faire.
Ouais.
Je m'imagine bien, enfin moi j'ai jamais fréquenté trop les salles de jeux vidéo, mais j'imagine bien, t'as lancé ta partie, tout d'un coup t'as ton pote qui arrive, tu lui dis viens, rejoins-moi quoi.
T'avais dans des jeux comme ça, c'était même encore mieux, c'est du style, t'avais deux bornes d'arcade qui étaient dos à dos en fait, et toi qui étaient reliées l'une à l'autre, et quand tu jouais en solo, tu faisais une partie solo, n'importe quel moment, t'avais un gars qui pouvait aller sur la borne de l'autre côté, sans que tu le vois, qui mettait une pièce et qui te défiait en fait. Donc, par exemple, t'avais
Donc,
c'était vraiment intéressant quoi, sur le principe.
Sur King of Fighters, je crois qu'ils ont fait ça.
Ils continuent toujours depuis qu'ils ont fait ça au Japon, ça n'a jamais arrêté.
Non, ouais. C'est bien, tout est bon pour mettre une petite piécette.
Ouais, mais bon, nous, on connaît pas ça aussi.
Il y a des salles chez nous, mais beaucoup moins en
France.
Les bornes sont rarement aussi évoluées. On n'a pas toutes ces fonctionnalités là.
Dans la région, il n'y a pas grand chose, mais en région parisienne, je sais que ça se développe de plus en plus, même encore hier en France, il y a quelques bonnes salles d'arcade, mais là n'est pas le sujet.
Ouais. Mais à Strasbourg, il y a quelques années, il y avait de bonnes salles d'arcade, il y avait le Joker.
Le Joker est mort depuis longtemps.
Il y a longtemps, on n'est plus si jeune que ça, effectivement.
10-15 ans que c'est mort, et après, c'était remplacé par encore d'autres choses.
Ouais. Non. Et avant ça, il y avait un cinéma pour adultes.
On s'éloigne de tout
on va revenir sur Double Dragon.
Pour revenir sur Double Dragon, donc apparition du deuxième personnage quand on veut, mais on peut se friter entre nous. Donc faut pas que n'importe quel boulet non plus joue parce qu'on peut se taper dessus.
C'est-à-dire qu'on peut pas jouer avec toi, quoi, Ellie.
Non, moi je fais très attention.
Moi j'ai joué avec Ellie, j'ai bien rigolé quand des fois lui taper dessus, mais c'était pas fait exprès.
Ouais, des fois on se chope l'autre.
Exprès, hein.
On le chope par les cheveux, là on le baisse la tête, et les ennemis sont tout autour en menaçant. Viens, qu'est-ce que je fais? Je le balance. Ah zut, bon. Alors, autre nouveauté, pour l'époque, il y avait une palette de coups assez impressionnante. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Je vous parlais un petit peu du scénario du jeu. Alors, c'est un beat'em all, il faut casser du méchant loupard. On dit disait des loupards à l'époque. Ou des zonards un peu plus tard.
Des zonards. Ouais.
Alors, quand on arrive en ville.
Ouais, ça fait vraiment ça, ouais.
Mais c'est pas pour rien, en fait. C'est parce que, tout comme dans Ken le Survivant, on connaît c'est un petit peu l'atmosphère, c'est dans les années 90, l'humanité a subi une guerre nucléaire. Oh là là, c'est terrible. Donc, il y a les gangs qui règnent en maître sur les villes américaines. Donc, les gangs, il faut bien se défendre contre eux. Donc, il y a nos deux amis Billy et Jimmy Lee, donc ils sont deux frangins, qui pratiquent les arts martiaux, et plus précisément le
Tu vas y arriver.
Souken. Voilà. Souken.
On a tout compris.
Ah, tu souhaites.
Donc, ça fait longtemps.
Et ils ont un dojo qui leur appartient et ils vont apprendre cet art martial à la population de façon à se prémunir des voyous. Voilà. Mais le gang de Willy, donc c'est le chef du gang des Black Shadow, il décide un beau jour de kidnapper Marianne. C'est une élève de leur enseignement. Donc il la kidnappe de façon à les attirer dans leur piège chez eux, dans le gang des méchants, dans leur repère. Voilà, donc franchement, ils sont obligés d'y aller, ici aventure. Et je vais enchaîner avec les coups. C'est bien ça, enchaîner avec les coups.
C'est une transition sublime.
Ouais.
Je m'ai épaté.
Alors, donc il y a les coups. Il y a trois boutons en fait. Il y a le stick, trois boutons. Donc, bouton coup de poing à gauche, le saut au milieu et le coup de pied à droite. Comme ça permet de faire des enchaînements, de switcher. Quand je vous disais qu'il y a beaucoup de coups, effectivement, donc il y a les enchaînements coups de poing. Si on finit avec le coup de poing, il met un hypercute pour mettre l'ennemi au tapis. Il y a l'enchaînement de coups de pied. Et si on fait les coups de pied et qu'on est assez proche, il va le choper automatiquement. On pourra mettre des coups de genou ou le balancer, ou alors coup de genou puis balancer. Il y a le coup de tête qui est assez utile. En fait, si tu fais deux fois avant, il va mettre un coup de boule. Et celui-là, il peut désarçonner un adversaire d'un coup et le mettre directement au sol. Il y a mon coup préféré, la manchette. Je me souviens, j'ai beaucoup regardé jouer, j'ai un petit peu joué à l'époque en arcade, et les gens utilisaient énormément la manchette. Pourquoi? Parce que c'est un coup qui tape par derrière, bon, ça c'est pas un souci. Attends, c'était quoi comme bouton? C'était le poing et le saut en même temps.
Point, ouais.
Et ça tapait derrière, et ça mettait l'adversaire KO tout de suite, donc au sol. Et ça, c'était assez destructeur. Donc en fait, c'est le coup le plus puissant, le plus pratique, si on prend pas en compte les armes. Donc voilà, manchette, gros classique. Il y a le saut du dragon. Donc ça, il saute et il donne un coup de pied et ça donnait ce nom, saut du dragon, grâce à ce jeu justement. On va passer un petit peu aux armes. Donc il y a la batte de baseball, ouais, c'est aux États-Unis en même temps, c'est l'arme classique. On a le fouet, qui est uniquement apporté par des femmes, on dirait des prostituées, je sais pas trop. Elles arrivent systématiquement ou quasiment avec un fouet. Alors on les met au sol, on prend le fouet et après on les fouette, elles aiment bien.
Comme dans la vraie vie.
Ouais. Voilà, tout à fait.
Il y a le couteau. Alors ça, c'est une arme de jet, donc à distance. Celle-là, elle peut enlever jusqu'à la moitié de l'énergie d'un adversaire, donc c'est pas mal. Il y a les dynamites. Alors dynamite, c'est faut faire très attention parce qu'elle peut vous exploser dans la main si vous la gardez trop longtemps. Par contre, quand vous la balancez et quand la mèche arrive à son terme, elle explose, elle enlève beaucoup d'énergie, elle peut tuer un ennemi d'un coup. Donc, intéressante. On a quoi ? On a encore des armes de jet, enfin c'est plutôt des objets, on a le carton, on a le rocher, on a le
Ça doit faire mal le carton, hein, quand même. Ouais, oh, te prendre un carton dans la tronche, ça fait très mal quand même.
Mais c'est un vrai carton.
Il y a Snake qui est caché dedans, c'est pour ça.
C'est pour ça.
Il est assez lourd. Et ce qu'il y a de pas mal avec ces armes, c'est que les ennemis, quand ils en prennent une, et par exemple ils balancent le carton, ils peuvent se tuer les uns les autres. Donc très pratique, ça c'est aussi une nouveauté pour l'époque. On avait également le coup de pied sauter retourné, c'est-à-dire saut et coup de pied en même temps. Assez difficile à placer, mais ça désarçonnait aussi en un coup. Voilà. Sinon, on garde les armes d'un niveau à l'autre. Si par exemple on finit le premier niveau, on a la batte de baseball, on va la garder pour le second niveau. Ça, c'est spécifique à la version arcade du jeu. C'est assez sympathique aussi, ça permet de
ça peut être utile, quoi.
Nous encourager à continuer sur notre lancée. Voilà. Il y a plein de petites choses marrantes dans le jeu, comme par exemple dans le premier stage, il y a dans la version arcade, je crois que dans d'autres versions ça a été repris, des affiches wanted avec les visages des boss. Il y a Bolo, il y a Jeff, il y a Willy, le boss de fin. Ça, on met, on va, ah, tiens, on va les retrouver plus tard, donc c'est intéressant. Alors, on va parler un petit peu des ennemis, parce que les ennemis c'est toujours ce qui fait le buzz dans les jeux. On a les ennemis classiques, genre William ou Repère. Eux, ils peuvent prendre les armes, peuvent se défendre, sont classiques, sont pas très difficiles.
Quoi, c'est des petits voyous, quoi.
Ouais, des petits voyous, Kaira de base, comme on dirait aujourd'hui. Alors eux, s'ils prennent par derrière.
Faut pas dire ce mot, non, c'est pas beau.
Non, c'est pas bien.
Des petits voyous.
C'est pas bien.
Ouais, bon. Ils peuvent venir par derrière et te choper. Ils t'immobilisent. Alors ce que tu peux faire, c'est soit donner coup de poing pour te dépatouiller, soit donner des coups
de pied. Soit te laisser faire. Si ça te plaît.
Ah, si t'aimes bien, bon. Les positions, les goûts, les couleurs ne se discutent pas.
Ce soir, c'est vraiment une émission sous-entendue. Hein.
Ouais, c'est quand même.
Dans tous les sens du terme, peut-être.
Moi, c'est depuis qu'il a dit fouet, c'est bon, j'ai parti.
Je suis très adulte. Ou alors, tu pouvais donner des coups de pied. À ce moment-là, le mec qui venait devant toi pour te friter, il se prenait les pieds et. Voilà. Il y avait les prostituées qui s'appellent les Linda.
Tu vois, il cherche aussi.
Non, il a cherché comme si. Il y a les noms des personnages. Attends, on continue.
Bah oui, c'est intéressant. Attends, quand tu la payes, tu mets. Je vous fais un chèque, à quel nom? Linda, bon, d'accord. Oh, c'est pas sûr qu'elles sont prostituées, mais elles ont quand même.
Le look.
Des bottes en caoutchouc, des trucs et fouet. La coupe années 80, c'est blonde avec les cheveux frisés. Bon, c'était.
La coupe caniche.
Non, mais. Faut pas dire ça. Alors, il y avait. Les géants blancs, comme on les appelait à l'époque, c'est les bolos. Les bolos, c'est les. Le premier bolo qu'on voit au début du jeu, il vient, il pète le mur, il apparaît, et il est super impressionnant, il fait deux têtes de plus que les autres, on dit oh là, faut se méfier. Il a pour habitude de mettre des grosses baffes ou alors de te balancer par-dessus l'épaule pour que tu retombes derrière.
Ok. Bah écoute, moi je reprendrai après avec une telle exo sur les boulots. En attendant, on va s'écouter la musique Riot de E-Industrial Area et c'est toujours composé par Katsunaka Yamane. We'll be right back.
again. Try again.
J'espère que vous êtes toujours à bloc, remonté à bloc pour cette émission Double Dragon où ça bouge, ça bastonne, ça cogne ce soir. C'est Eli qui a la parole, mais avant que je laisse la parole, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, l'émission de la radio, pour voir les différents sujets annoncés. Sur notre forum, il y a des podcasts. Cette semaine, le podcast, c'est Metal Gear Solid, d'où avant je parlais de Snake, une belle concordance, allez savoir pourquoi. Et que sur le chat aussi, on aime bien la salle sur le chat, même les dédicaces sur le site, même de m57.fr, parce que mine de rien, c'est quand même là que vous nous écoutez, hein. Faut être honnête, hein, rendons à César ce qu'il y a à César. Et pour revenir sur les boulots, l'anecdote perso du jour, alors désolé, je sais qu'il y en a qui l'ont attendu. Donc celle-là, elle est pour notre fidèle auditeur Alex. En fait, qu'on était collégiens ensemble, ça veut dire que ça remonte. Et il y avait un mec dans le collège qu'on se surnommait Bolo, et on se foutait de sa gueule assez méchamment. C'est petit, c'est méchant, il y avait rien de méchant le mec, hein, mais pourtant on l'appelait Bolo, j'avais Bolo, et on était tellement idiots de faire ça. Mais du coup, quand Ellie, avant de se prononcer ce mot-là, j'ai pensé à ce type-là, et j'avais une pensée pour lui, et donc je l'ai...
On dirait qu'il est mort.
Non, mais il est pas mort, tu vois, mais voilà. Au final, je me dis, ouais, mais c'était méchant, tu vois, je veux dire, c'était vraiment le collégien
chiant,
quoi. Je regrette, mais voilà, c'était une petite pensée rigolote pour ces années passées, tant voilà. De délire et de jeux au collège, donc voilà, c'était la petite...
Il aimait peut-être la bolognaise.
Souvenir nostalgique du jour, Bolo, c'est du vélo, donc ça c'est Bolo vélo aussi, enfin bon. Ellie, je te rends la parole, après Bolo, c'est passage assez minable.
Ça devait pas être n'importe qui, il devait être costaud, comme les géants blancs dans Double Dragon. Et aussi les géants noirs, on les appelait comme ça quand on connaissait pas trop les noms à l'époque. Et dans la notice, c'était une autre version, il marquait que c'était les abobos, les géants noirs. Donc ça faisait 1m91, plus de 120 kilos, donc vraiment les baraques aussi, très difficiles à battre. Il y avait les Jeffs. Alors les Jeffs, c'est des mecs habillés en vert, ça fait écolo, en fait, ils se camouflent dans les bois.
Comme... C'est des Jeffs d'orchestre.
Ouais. Ça c'est une vieille émission sur Canal J, Jeffs d'orchestre. Et donc c'est des office de boss aussi. Déjà à partir du deuxième niveau, c'était des jumeaux. Et puis on les retrouve plus tard comme ennemis normal.
Ils lançaient pas des couteaux aussi des fois?
Ça c'est dans les versions Game Boy ça.
Ah ouais, c'est pour ça, j'ai beaucoup joué à la version Game Boy.
Je crois pas, ouais, dans d'autres versions ouais. Il y a le géant vert aussi. Alors géant vert on rencontre.
Il a du maïs
fois. Ouais. Exactement ce que j'allais dire. Géant vert comme dans la pub pour le maïs. Lui, il vient qu'une fois dans le jeu, c'est dans l'avant-dernier stage. C'est pareil, le troisième espèce de géant balèze, plus d'un mètre 90. Et on retrouve également Willy, le boss de fin. Alors lui, la grande spécificité, c'est qu'il a une mitrailleuse. M16, il peut tirer canard. Il peut tirer aussi sur ses collègues, les autres voyous, quoi. Et il est dégommé assez rapidement, comme ça. Voili voilou. Alors je voulais parler d'une petite anecdote personnelle. En fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce jeu? Parce que c'est un des beat'em all qui a vraiment fait progresser le genre, parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, un peu tout ça à la fois. Mais surtout, je me souviens quand j'étais petit devant le prise unique.
Attention
Le prise unique.
Devant le mammouth.
Ouais, le prise unique du quartier de l'Esplanade à Strasbourg pour être précis.
Ah ouais, je sais. Je connais aussi, j'ai eu mon enfance là-bas.
Il y avait quoi? Une borne d'arcade. Et le jeu y changeait de temps en temps.
Devant le prise unique, il y avait une borne d'arcade.
Ouais.
Et elle se faisait pas mouiller parce que c'était sous un préau, tout ça, donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là.
C'est une galerie marchande en fait, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens.
Donc les parents, ils faisaient des achats dedans et les enfants, ils restaient souvent jouer. Alors il y avait un attroupement et tout le monde regardait. Oh punaise, c'est beau ce jeu, ça castagne dans tous les sens, ça a l'air génial, je vais mettre une petite pièce.
Une petite pièce, il me semble qu'à l'époque c'était quand même des pièces de 10 francs quoi.
Ouais.
5 ou 10 francs, ouais. Je crois. Et à ce moment-là, on regardait énormément ce jeu, c'est très sympathique. Avec la bande d'arcade qui était belle, qui défilait, les gens qui faisaient des manchettes à fond. Et moi je me suis dit, ah, mais j'ai le jeu sur Amstrad, je pourrais prendre ma grosse table en chaîne, je la mets à côté là. Je vais récolter les pièces que le genre me donne et je remettrai la version Amstrad, je chercherai en avance.
Il y a quel livre avoir des idées pareilles? Non, il a magouille quoi.
Moi je ferai moins cher parce que le jeu Amstrad, c'est Amstrad, c'est pas tout à fait de l'arcade quoi.
Surtout, souvent dans les séries, on voit les petits américains qui essaient de vendre de la citronnade à leur voisin. Ellie, non, il a l'idée d'avoir sa table en chaîne avec son PC dessus pour faire payer les gens.
Ah bah ouais, ça aurait été une bonne idée.
C'est original. Ça, faut lui laisser, c'est original.
C'est
Amstrad de l'époque. Je dis, non, mais cette table en chaîne, ça le fera pas, quoi. La borne d'arcade, elle est plus jolie, elle est plus style quand même.
Mais pour revenir à cette borne, moi je me souviens surtout qu'après, il y avait eu la borne Bad Dudes versus Double Dragon, je crois, qui était là-bas, ou un truc
Dragon Ninja,
Bad Dudes versus Dragon Ninja, qui était dans le même esprit en fait, mais qui est sorti un peu plus tard.
Ouais. On pouvait jouer à deux, il était en deux dimensions plates celui-là. Et j'avais aussi sur Amstrad, très bon jeu, bon souvenir.
Encore un beat'em all. On a beaucoup aimé les beat'em all étant jeunes. C'est un truc, ça a bercé notre enfance, ça a presque disparu.
C'était à la mode, je pense.
Ouais, maintenant on est hack and slash, mais c'est pas tout à fait pareil quand même.
Ça a un peu perdu ce côté-là aussi, je trouve, c'est dommage.
Alors je voulais vous parler un petit peu de l'introduction du jeu, qui était relativement stylé pour l'époque. J'en avais déjà parlé dans une émission précédente, je crois, il y a deux semaines. En fait, dans les jeux sexy.
Qu'est-ce qui est sexy dans Double Dragon ?
Ah, je vous explique. Donc, c'était les années 80. Qu'est-ce qui était à la mode ? Les jupes très courtes. Pour montrer bien les cuisseaux.
Les cuisseaux.
Pas de cache-jambes. Pas de cache-jambes.
Et pas que ça d'ailleurs, ouais. Puisque donc on voit Willy et sa bande qui viennent chercher des noises. Mais nos deux héros, ils sont à l'intérieur de leur maison. Ou dans le dojo, je sais pas trop. Et ils capturent Marianne, donc la fille sur laquelle les deux fantasmes. Il lui met un gros coup de poing dans le ventre et il la porte sur l'épaule et il se casse. Et sur ce, nos deux héros sortent précipitamment de leur dojo. La porte s'ouvre avec une belle voiture en fond. Là, on voit. Mais on arrive, même si on joue vite, on n'arrive pas à les rattraper avant la fin du jeu. Et donc, quand il la prend sur l'épaule, cette brave Marianne, on voit sa culotte blanche. Voilà, 13 années 80, très de l'époque.
Quoi, une culotte blanche, c'est 13 années 80?
Non, mais la culotte apparente. La culotte apparente.
Non, les méchants qui arrivent comme ça et qui mettent.
Qui kidnappent.
Ouais, les Black Shadow. Donc c'était très sympathique, même si un petit peu kitsch.
Mais tu sais que Ellie, aujourd'hui, tu as choisi un jeu qui a aussi marqué mon enfance, parce que Double Dragon, je crois que c'était mon troisième, enfin un de mes premiers jeux Game Boy, parce que j'ai commencé avec une Game Boy comme console de salon, de portable en fait, ma première console. Et là où je veux en venir, c'est que à l'époque, en fait, je rêvais de plein de jeux et j'avais un petit catalogue aussi à Nintendo avec tous les jeux classés par ordre, catégorie action, baston, aventure et tout. Ouais. Et pour Noël, j'avais fait une liste à mes parents avec, je sais pas, genre 50 jeux dessus, tu vois, genre tous ceux qui m'avaient un peu plus dans le magazine, dans le notice, qui m'avaient un peu marqué. Et Double Dragon en fait était arrivé en premier parce que quand les jeux étaient classés par genre action, aventure, ainsi de suite. Et donc action, c'est le premier jeu du genre alphabétique, c'était Double Dragon.
C'est
donc,
le jeu de la liste.
Et en fait, c'est un des premiers jeux que j'ai eu, alors qu'il y avait d'autres jeux qui me faisaient mais beaucoup plus baver, tu vois. Mais seulement la liste était tellement longue que je pensais que j'en aurais plein. Et en fait, moi j'en ai eu qu'un et c'était le premier de la liste, quoi. Et moi,
tu rêvais quoi du Père Noël?
Moi j'étais un fou à l'époque. J'étais un. J'avais pas
50
de Kirby ou un Zelda.
Voilà, c'est ça. Non, même je voulais un Mario, je crois. Et en fait, après, je me suis payé les jeux. Mais bon, du coup, ça a fait que j'ai commencé avec Double Dragon assez tôt et que ben moi j'ai beaucoup joué à la version Game Boy, je la connais, mais je l'ai fini qu'il y a quelques années en fait.
Ouais.
Parce que le jeu était dur.
Ouais, relativement, ouais.
Quand t'es môme, franchement, il y a des passages qui sont.
Ouais.
Bah justement, c'est un jeu sur Game Boy que j'ai fait. Bon, je les ai presque tous fait, les Double Dragon, et le jeu sur Game Boy, je l'ai fait grâce à une ex à moi qui m'avait dit.
C'est pas la première fois que tu nous parles de tes ex, alors, hein. C'est bah, toujours les ex, c'est le jeu vidéo.
Soir, des fois, c'est des
gueuses.
Enfin, une anecdote perso, encore une.
Anecdote perso folie ce soir, c'est un combo, là, on est on fire.
Elle m'a dit qu'elle s'était procuré le jeu à l'époque, non pas parce qu'elle connaissait le titre, mais parce qu'il avait un nom qui l'avait séduite. Double Dragon, elle s'est dit, oh là là, des dragons et tout, ça doit être bien, ah, c'est des gars qui se castagnent, un ninja, tout ça. Bon, elle prend, pas de soucis. C'est la version Game Boy. Elle l'avait pas fait, et quand j'ai rencontré à l'époque, j'avais joué sur sa Game Boy et tout, je l'avais fini, le jeu. Je crois que j'avais même One Life fait. Et du coup, bon, après, je sais pas s'il y a de la fini ou pas.
En fait,
moi, je pense que Ellie veut se faire passer par un saxophone auprès de nos auditrices. À chaque fois, il nous parle de ses ex, quoi.
Non, mais tout ça pour dire que le jeu vidéo, ça se partage. Mais
pour revenir sur la version Game Boy, parce que moi, c'est celle que j'ai jouée comme ça, je sais qu'à l'époque, j'avais galéré, j'avais pas réussi à finir parce qu'il y a le fameux stage 3 qui se passe dans la caverne où tu dois faire un saut millimétré.
Oh oui, je me suis entraîné.
Sur des plateformes mouvantes. Et en fait, ce truc, faut vraiment avoir le bon timing et tout. Ouais. Et quand j'étais môme, j'arrivais pas. Et je perdais toutes mes vies là-dessus. Et du coup, le jeu, j'ai pas fini à l'époque là-dessus. Et quand j'ai repris il y a quelques années, c'est pas ça, j'ai enfin fait le passé. Donc, pour la première fois, j'ai vu la suite du jeu. Donc, j'ai pu affronter le dernier bobo, ouais. Et le boss de fin. Mmh. Et le boss de fin, j'ai même réussi à l'avoir parce que je l'ai coincé dans un mur. J'ai eu un bug quand j'ai fini le jeu.
Ouais.
Allez, God perso, je sais, il y en a plein ce soir, mais voilà.
Ah ouais, mais c'est un jeu qui s'y prête bien. Hein, vous avez
non, mais voilà,
perso,
justement, ça, comme sûr, tu me parlais avant du boss 5 Amitraid, la première fois que j'ai vu, je suis trop bien,
je vais me faire défoncer.
Et en fait, non, il était bloqué dans un mur et il pouvait pas tirer.
Ouais. Ce qu'il y avait sur Game Boy, c'est. D'ailleurs, tu pouvais jouer à deux, en fait, si tu les linkais, et c'était pas du tout le même jeu, les sprites étaient plus grands.
On l'a essayé ensemble, ouais. Ça veut dire.
Décor différent, moi j'ai deux Game Boy, j'ai un link et deux jeux, donc je peux y jouer quand je veux, y a pas de souci.
Ouais, mais avant que tu l'aies, on avait essayé ensemble et on avait tellement découvert ce mode-là où t'avais tout plein de nouveaux mouvements, et voilà, genre ouais. Un petit jeu Street, quoi.
Tu peux prendre tous les personnages, ouais, Street, mais avec la profondeur en plus.
Et là, tu peux courir aussi.
Sympa. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a essayé du coup, parce qu'il faut quand même du matos.
À l'époque, c'était assez rare. Mais après, c'est pas un grand truc, mais c'est un petit mode bien. Je veux dire, voilà, ça donne une vie supplémentaire au jeu Game Boy, qui, au final, ben, je trouve très fidèle à l'arcade, vu que j'ai pu faire la version arcade aussi plus tard.
Je me disais avec mon ex, on peut jouer à deux, c'est marqué sur la boîte. Et ça doit être comment? Tu crois qu'on fait le jeu à deux ou chacun son tour ou quoi? J'étais tout fou.
C'est la découverte.
Et en fait, non, c'est de la baston dans la street, quoi.
Faire le jeu ensemble à deux, ça apporterait une dimension supérieure. Comme dans les autres versions.
Hein. Bah ouais, comme dans les versions NES ou console, tout simplement. Enfin, console de salon, on va dire, pas portable.
Ouais. Donc je vais un petit peu parler des différents stages du jeu. Il y en a cinq missions. Donc la première, on commence dans le quartier. On voit pas trop de choses dévastées par le holocauste nucléaire. Donc ça choque pas trop. Donc on commence, on voit la voiture de nos deux héros, on fait tout le quartier, on bastonne les méchants, on finit par taper le Abobo, le grand black à la fin du niveau. Et un petit truc marrant dans le décor, il y a un chat qui est sur une poubelle comme ça.
Ah ouais, je l'ai pas fait gaffe.
Ah, celui-là, il se fait remarquer, je sais pas, il a quelque chose de spécial.
C'est celui après lequel le chien de Secret of Evermore va courir, je pense. C'est
pour ça. Là, on va recouper toutes nos émissions.
Mais c'est ça, en fait.
Non, c'est pas
en fait. La vérité, c'est que c'est qu'un seul et même jeu auquel on joue toute notre vie.
Ils sont tous issus du même monde.
Ah, mais
ils ne le savent pas. Et ils revivent le même jour, mais ils ne le savent pas.
Ouais. Il y a des jeux, effectivement, que je ressors régulièrement, comme Street Fighter de Turbo.
Ouais.
Ça, je le sors régulièrement, je le finis régulièrement. Donc, le chat, ça se dit. Deuxième stage. En fait, les stages, les cinq missions, elles s'enchaînaient, elles se suivaient. Le scrolling, limite, il pouvait être en continu, quoi.
Il n'y avait pas de coupure, en fait.
Ouais,
c'est ça, tu voyais toujours le décor et ça défilait avec, ça, c'était bien.
Ouais. Ouais, donc on pouvait vraiment s'imaginer le début et la fin en continu. Deuxième stage, c'était un espèce de local dépôt, enfin, côté extérieur. Donc on commence, il y a un gars qui te balance le bâton de dynamite dès le début. Et on peut lui rebalancer. On s'arrange parce qu'il y a des trous dans le jeu pour faire tomber les ennemis dans le trou. Après, c'est très escarpé le décor, il y a des marches un peu dans tous les sens, donc c'est relativement pas linéaire de ce côté-là. On peut aller sur les objets, on peut escalader, il y a pas mal d'échelles, des grillages, on peut escalader. C'est aussi une nouveauté pour l'époque, hein, une liberté de mouvement comme ça.
Je me souviens pas qu'il y a eu beaucoup de beat'em all avant avec des échelles ou des endroits où t'es plusieurs niveaux, tu puisses accéder et vraiment avoir même faire tomber un ennemi dans un trou, ça paraît tout idiot comme
à part
ça.
Shadow Warrior, je crois. Mais sur Amstrad.
Après, j'ai pas fait beaucoup de beat'em all de cette époque-là, mais
Shadow Warrior sur arcade aussi, il y avait ce système aussi, mais il était moins bien fait, je trouve. Donc le deuxième monde, il y avait à la fin, ouais, on monte. Il y a un entrepôt avec des cartons, on est toujours à l'extérieur. Et là, il y a les deux Jeff qui sortent comme boss. Et il y avait un tapis roulant. Je me souviens que si tu pouvais les mettre dans le tapis roulant, il y avait une espèce de porte ouverte à droite. Ils allaient dedans et ils mouraient direct. Peu si tu perdais une vie, t'y allais. Si tu mettais un objet, ils partaient.
Ils disparaissaient.
Ouais. Donc en clair, quand on te met au sol et que t'es sur le tapis roulant, quand tu te relèves, dès que tu te relèves, il faut te casser. Sinon,
sinon t'es mort.
Troisième stage, le stage de la forêt. Alors dans tout le Double Dragon, quasiment, il y a une forêt avec au milieu une petite rivière et un pont cassé. Ah, ça c'est le grand classique des Double Dragons. C'est un peu comme dans Super Mario Kart. On entend la musique en fond là.
Ouais c'est ça.
Ouais, ouais c'est un peu
ouais,
même.
Il a raison. Il y a toujours quelque part une course avec un pont cassé, ben faut que tu passes le pont en sautant ce qui est cassé quoi.
Il faut taper sur les ennemis pour qu'ils fassent plouf dans l'eau.
Et si toi tu fais plouf, tu perds une vie.
Ouais, je me souviens, à un moment t'avançais, tu sautes le pont, mais enfin bon timing, il faut sauter relativement tôt, je crois. Parce que
tu parles de Mario Kart ou tu parles de Double Dragon?
Double Dragon.
Ouais, bon Mario Kart c'est timé. Double Dragon c'est vraiment très trompeur parce que si tu sautes au dernier moment, t'as encore les pieds sur le pont, mais en fait tu tombes déjà.
D'accord. Donc, oui.
Le masque de collision.
C'est vrai que des fois c'est un peu embêtant dans les jeux. Tu sais jamais si tu peux amener ton personnage jusqu'au bord du truc pour réussir ou s'il faut sauter un petit peu avant.
De ce côté-là.
Faut vraiment bien connaître son jeu. Hein.
C'était un peu mal foutu ce côté-là. Bon, bah tant pis, on met une pièce en plus.
C'est peut-être fait pour ça.
Hein. Ouais. Et en sur Game Boy, c'est la première fois que je suis arrivé au pont. Moi, je me suis fait avoir parce que moi j'ai voulu sauter tout de suite. Il y avait un ennemi en face, il m'a tapé. Pouf. Dans
Le couteau. Oh. Le couteau qui arrive, t'étais en train de sauter. Non.
Ouais, grand classique.
Tu peux pas esquiver en plein saut comme dans Tortue 4 où tu peux aller dans tous les sens en plein saut. Là, tu peux pas. Ensuite, stage 4, il y a la montagne. Alors, à la fin de la forêt, j'ai pas dit, il y a deux Abolo, deux géants blancs à battre.
Abolo et pas Abobo ?
Ouais, et comme ils sont blancs, c'est Abolo.
Ah, d'accord.
Abolo Diaz.
Très bien, très bien.
J'ai fait les recherches.
Non, mais je te crois.
D'ailleurs, ça me fait penser à la version NES où, pareil, t'as les deux Abolo qui font un trou dans le mur de la montagne qui sortent pour te casser la tête. Alors, si tu les bats, en fait, ce que j'ai fait, sur NES, je connaissais pas la première fois, j'ai continué. Et le stage, tu tournes en rond.
Il loupe,
recommence sur
quoi ? Infini, quoi.
et les trous ils sont de nouveau là. Et ouais, les ennemis aussi ils loupent. Alors ce qu'il faut faire en fait, c'est aller dans ces trous sur la version NES du 1, hein, et après tu rentres dans la base secrète des méchants. Et le jeu continue.
Bon, si tu rentres pas dedans, après tu peux louper le jeu infini. Est-ce, ouais, que, est-ce que ça fait du score?
Oui, ça fait du. Enfin, je sais pas si c'est du score, mais ça doit en faire sinon.
Je crois qu'il y a du score, mais je suis plus sûr.
Mais par contre, t'as le temps limité. Hein.
Ah, mais, ah ouais, d'accord, ouais, c'est pas cool.
Ah zout alors. Alors, donc le stage de la montagne, il y a un grand pont, on saute. Alors, si on saute pas, on tombe comme une. Et là.
Comme un flan.
Comme un flan, tout à fait.
Ça me refait penser à la version Game Boy. Parce que sur ce même pont, il y avait des espèces de ninjas, c'est repris du boss du second niveau.
Qui sont ceux qui lancent les couteaux après, là.
Ouais, ceux qui ont une machette, là, je crois. Et ça, c'est exactement le même. Après, tu les bats au bout de cette espèce de pont en ferraille, gros pont en ferraille. Toi, tu peux escalader la montagne, il faut le voir, parce que si tu continues, il y a un trou, tu tombes, c'est fini. Donc pareil, pour gagner du temps, bazarder les ennemis dans le trou, c'est pas toujours facile, mais qu'on y arrive. Ce qui fait penser que quand on met une manchette, des fois, les gens, au lieu de rebondir vers l'arrière, quand ils se prennent le coup, ils rebondissent vers toi. Un petit peu particulier.
Ouais,
spécial. Faut le savoir. Ouais. D'ailleurs, à propos de cette manchette, sur Amstrad, c'était particulier, parce qu'il y avait aussi tous ces coups, c'était un petit peu différent à mettre place. Mais la manchette tapait pas derrière toi, mais devant toi, comme les autres coups.
Ok.
Version rabais. Non, non, je dis ça, je pense pas. C'est un très bon jeu sur Amstrad.
On sait que tu es un fan de l'Amstrad, tu l'as démontré en émission pour. Non, ouais. Mais c'est vrai.
À fond. Pas que. Et cinquième et dernier stage, dernière mission, il y a le repère des méchants. C'est une espèce de château tout en haut de la montagne, après avoir battu le géant vert qui nous permet donc d'accéder là-dedans.
Et on vient choper du maïs.
Je meurs dedans. Il y avait quelques spécificités à ce niveau, c'est qu'il y avait des pièges. C'est-à-dire qu'on trouve dans d'autres versions. Il y avait le mur, il y a des espèces de carreaux, comme des briques, des grosses briques. Et quand on avance, surprise, il y a un carreau qui te pousse, il te tape. Et il rentre de nouveau dans le mur. Alors fallait esquiver, c'était pas simple. Il y avait un autre piège qui était très classique dans Double Dragon. C'était un espèce de démon décoratif, une statue au-dessus des portes, de l'autre côté. Et ils avaient des lances. Et les lances, ils te donnaient un coup avec. Bizarre. Et tu pouvais dégommer un ennemi avec un coup de lance comme ça, s'il se le prenait. Et il y avait un trou en bas, t'avais juste une petite rigole pour marcher, après il y avait des pics, donc c'était
des pics en
très chaud. Ouais. Une petite erreur de maniabilité, un petit bail, ah, zut, une vie en moins.
Alors, la maniabilité, ce qu'Eli a pas dit non plus, c'est que des fois le jeu il est pas super précis. Hein. On y a rejoué récemment
comme
en arcade.
Beaucoup de jeux de l'époque. Hein.
Non mais
non, pire.
Là franchement, ça fait un choc. Je veux dire, quand même, t'es habitué à d'autres choses qui sont pas super précises. Là, c'est des fois, tu te demandes vraiment ce qui se passe. Quoi. T'as vraiment l'impression de taper à côté alors que t'es sur le mec. Quoi.
Ouais.
C'est...
Des bugs de collision. En fait, j'allais venir justement au défaut du jeu, parce que le jeu aussi mythique soit-il, l'homme, c'est pas grave, tu peux y aller, y a pas de souci. Le jeu aussi mythique soit-il, il a quand même quelques petits défauts. Alors tout d'abord, la durée de vie. Nous, on a fini le jeu en combien de temps?
Je sais pas, 20 minutes.
Ouais, 20 minutes. Si on connaît pas, on va mettre une demi-heure.
C'était sur bande d'arcade, donc.
Les jeux d'arcade sont normalement courts. Après, ce qu'il faut, c'est qu'ils sont durs, donc c'est fait pour qu'ils mettent beaucoup de pièces.
Voilà. On va dire une demi-heure si tu connais pas le jeu. Voilà. Ensuite, la précision des coups, c'est très approximatif parce que des fois, tu tapes le gars, ça passe à côté de lui, en haut ou en bas. Donc, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que des fois, c'est eux qui s'alignent sur toi. À ce moment-là, tu mets le gros coup, genre la manchette, c'est pas
mal. Ouais, t'attends que eux s'alignent et comme ça, t'es sûr de les avoir.
Ouais,
quoi.
Quand tu fais le saut du dragon, tu mets le pied. C'est pas simple. C'est encore anecdote. En sport, je me souviens à l'époque, j'arrêtais pas de faire des sauts du dragon. Je me suis dit, ouais, comme dans le jeu vidéo. Alors, je sautais et tout et je faisais le. Ouais, c'est ça.
Tu devais avoir l'air con.
Non, mais les sauts, c'était pas dragon, Julie, à l'école, c'est trop bien.
C'est karaté kid, Ellie, quoi.
Ah ouais, c'était trop bien. Il y en a qui font des coups de pied retournés. Moi, je faisais ça, c'était ma spécialité. Ouais, c'est vraiment sympa. Le jeu était assez saccadé aussi pour l'époque. Là, on a refait avec Martin en émulateur, toujours cette saccade, surtout quand il y a beaucoup de monde à l'écran. Comme
c'est bizarre parce que des fois il ralentit à fond et des fois il va bien le jeu, mais il est jamais fluide. Et c'est ça, je veux dire, aujourd'hui ça pardonne pas. Quoi. On se rend pas compte qu'un jeu pareil à l'époque c'est plus marché, alors que voilà, à l'époque ça marchait, c'est qu'il était aussi beau. Et
t'as 6 ou 7 persos en même temps, alors effectivement ça lag un peu. En fait, c'est simple, il y a deux petits CPU de 8 bits à l'époque qui fonctionnaient quand on les additionnait ensemble et ça fait à peine du 5 MHz. C'est vraiment ridicule. C'est pas grand chose. C'est pour ça que voilà. Il y a eu donc beaucoup de rééditions sur Game Boy, NES, Master System, Mega Drive, Amstrad. Il y a même eu des inédits sur iPad et iPhone. Bon.
C'est des portages en fait.
Ouais, des portages la plupart du temps. Il y en a eu 3 essentiellement des Double Dragons. C'est C'est pas toujours des portages sur Game Boy, c'est des versions inédites. C'est pas pareil.
Ouais, je veux dire, ils ont retravaillé des choses, vu que j'ai fait les deux pour comparer.
Mega Drive Amstrad, c'est des portages. Hein. Ouais. Sur SNES, il est très différent aussi. On peut rebondir contre les murs.
Le Return, ouais.
Ouais, ouais. Sur Amstrad, je me souviens quand on a des persos rapidement, puisqu'on a beaucoup de temps. Je faisais des fois, on jouait à deux. Il y en a un qui jouait avec le clavier, l'autre avec le joystick. Et celui qui jouait avec le clavier, des fois, faisait esque, échappe. Et hop, on recommence. Voilà.
On continuera là-dessus après avoir écouté la musique du stage 3-4 de la version Game Boy, une version qui nous a beaucoup plu.
M57, un maximum de musique.
Un maximum de musique.
M57 Radio.
It's and move.
It's and move.
Alors, moi je donne la parole à Edith aussi parce que je crois qu'elle n'est pas finie avant.
Si, j'ai réussi à peu près à tout boucler. J'aurais bien voulu parler des autres versions, Master System, NES, etc., qui sont assez sympathiques.
Mais ça prendrait trop de temps.
Mais j'ai quand même une petite dernière anecdote perso. La soirée des anecdotes perso. Donc, c'est la version Mega Drive. J'ai trouvé une Mega Drive, mais il n'y a que le port 2 qui fonctionne. Donc, j'ai pas mal de jeux, comme j'ai une collection. Et entre Double Dragon, je voulais le finir à tout prix. Donc, j'ai mis en deux joueurs. J'ai frité les premiers ennemis et je pouvais plus avancer puisque le port 1 marche pas pour faire avancer le premier joueur. Donc ce que j'ai fait, j'ai frité le premier joueur et j'ai continué le jeu avec un crédit en moins et j'ai quand même fini.
Bravo. Voilà.
Impeccable, bravo. Félicitations.
Moi j'aurais dit une console qui marche, mais bon, ça n'engage que moi.
C'est pas volontaire.
Oui, c'est sûr.
Alors moi ce soir c'est un peu particulier puisqu'on va pas faire les questions d'auditeurs, puisque c'est SFL Hunter qui nous avait posé des questions, et ces questions nous ont servi à faire nos rubriques. C'est-à-dire que Ellie a déjà répondu sur la force du jeu, et puis la deuxième question d'SFL Hunter c'était à propos du film, et moi j'ai construit ma rubrique justement sur ce magnifique
film.
Quel est le mieux, vous ferez votre propre opinion sur ce 1h30 de film de pure folie, comme disait Dorothée. À vous de prendre le mot folie comme vous le voulez, hein. Il y en a qui aiment la bonne folie, il y en a qui aiment quand c'est fou, et il y en a qui voilà, le pur nanar, hein. Donc je vous parle donc du film Double Dragon qui est sorti le 10 juillet 96, qui est Oh joie, disponible en DVD depuis 2000 et que nous nous sommes fait un plaisir de regarder.
Moi, je suis très content d'avoir de ma collection de DVD. Hein.
Voilà.
Alors, entièrement.
On te le rendra, t'inquiète pas.
Dans ce film, il y avait pourtant des noms assez connus puisque on y retrouve Robert Patrick qui joue le mauvais, le grand méchant du film.
Robert Patrick
que l'on avait vu dans Terminator 2, dans X-Files et qui a fait des apparitions dans Stargate, dans Chuck, etc. On a aussi Marc Dacascos qui a joué dans Le Pacte des Loups, dans The Crow, la série, et qui lui, voilà, et qui lui est né dans une famille. Enfin, son père était pratiquait les arts martiaux à haut niveau, donc je veux dire, il est là à juste titre, on va dire. Il y a aussi Scott Wolf qui a joué dans la, bon, c'est plutôt pour les filles, dans la série La Via 5, et Alyssa Milano, connue évidemment pour Madame et Servie et Charmed. On peut aussi citer Christina Wagner qui est chez nous, un petit peu moins connu, qui joue dans le film La Sbire, un petit peu du grand méchant. Et on retrouve, ça m'a fait rigoler parce que quand même on verra que le film est différent du jeu, mais on retrouve quand même quelques petites anecdotes. On retrouve le fouet, puisque elle, son arme c'est le fouet. Bon, c'est pas une prostitute hein, comme dans ton jeu, mais
les prostitutes c'est bien Mythic Six, voilà. Pas tous les enfants, hein, sortent du dragon.
Donc l'histoire, c'est pas une guerre nucléaire dans le film. L'histoire se passe en 2007 à Los Angeles, après un terrible tremblement de terre, le Big One. Et l'eau a recouvert une partie de la ville qui en fait une quasi-île, on va dire. Et donc ils sont un petit peu enfermés sur cette île, obligés de se reconstruire, de renaître, on va dire, chaotiquement des décombres de ce Big One. Et ce qui se passe, c'est que le jour, les flics contrôlent la ville, mais il y a une espèce de contrat tacite où la nuit, par contre, c'est les gangs qui prennent possession de la ville. Et là, quand je dis les gangs qui font leur loi, c'est pas n'importe quel gang. Donc on peut citer le gang des clowns. Donc c'est vrai qu'un clown, c'est très 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 dangereux.
Ouais, ça fait peur les clowns, t'as jamais vu ça.
Surtout ceux-là, ils sont pas turlurés de blanc, ils ont des espèces de grands gants à la Mickey complètement ridicules.
Ouais, d'ailleurs, on les retrouve dans Double Dragon sur Super Nintendo.
Il
y a un boss, c'est le gros clown là. Si, si.
On a le gang, ça c'est mon préféré, le gang des facteurs, en culotte courte avec des petits shorts, des petites bretelles, et il y en a même qui ont la petite casquette avec l'hélice sur le dessus, donc ceux-là aussi ils font hyper peur, et même des fois ils se jettent dans le vide tout seuls, on sait pas pourquoi. Et puis alors le gang qui, on pourrait se dire, oh, on va voir débarquer le gang des Son of Anarchy et tout, c'est le gang des bikers. Non, non, ils sont juste à vélo, ils sont pas tatoués du tout, c'est ridicule, quoi. Donc déjà, ça commence super bien quand on voit les gangs. Et puis, c'est dans ce chaos, ouais, bon, avec des gangs qui font pas trop peur, mais c'est pas grave, que deux frangins, Jimmy Lee et donc Billy Lee, on les retrouve, doivent essayer de vivre. Soit dit en passant, deux frangins qui ne se ressemblent absolument pas, puisqu'il y en a un qui est d'origine asiatique et pas l'autre, donc bon, passons. Et puis ils essayent de vivre, ils font des petits combats d'arts martiaux. Mais bon, dès le début, on voit qu'ils sont pas très sur la même longueur d'onde. Et puis leur équipe au début ne marche pas très bien puisqu'ils ont deux caractères bien différents.
Ouais, ils se ressemblent pas trop non plus.
Voilà, que ce soit physiquement ou dans le caractère. Et puis ils ne savent pas, mais la jeune personne qui s'occupe d'eux, à peine plus vieille qu'eux d'ailleurs, hein, qui s'appelle Satori, elle possède un morceau magique d'un pendentif qui est la moitié du double dragon. Et le deuxième morceau qui avait été caché, malheureusement, a été retrouvé par le grand méchant, donc qui est joué par Robert Patrick, qui s'appelle Shuko, et qui veut évidemment absolument trouver la seconde partie.
Enfin, faut dire quand même que tous les personnages, en fait, dans ce film, c'est des vraies caricatures, quoi. C'est,
ouais, mais voilà, exactement.
Du début à la
c'est
fin.
Les caricatures c'est de méchants, les caricatures de gentils.
Exactement, ouais, c'est vraiment, ce que j'allais dire.
Surtout le Abobo. D'ailleurs, à un moment, il le. Je vais te spoiler.
Non, bah vas-y, maintenant t'as lancé, hein. Non, faut y aller.
Trop tard, assume.
Avec une machine, il est sur stéroïde, alors il a des muscles partout, pire qu'un catcheur.
Ça, oui, bien, puis vraiment. Surtout, il a une tête, on dirait une grosse pustule. Mais enfin bon, ouais. Pire qu'un catcheur, oui, c'est sûr.
À ce propos, je voulais préciser que dans le jeu vidéo sur arcade, il y a une édition de Double Dragon qui est un jeu à la Street Fighter, donc tu as un contrat en 2D. Et en arrière-plan, il y a une salle d'arcade, à un moment, tu peux casser les trucs. Et il y a le film qui passe en fond.
Bon, c'est pas grave. Ellie, la prochaine fois, tu feras ma partie. Donc, il y a une partie du médaillon qui représente plutôt la force psychique. C'est Shuko qui l'a. Et donc, ça lui permet de se transformer en ombre, de manipuler un peu les gens. Et l'autre partie, donc, c'est la force physique. Sauf que nos deux frangins, ils sont un peu concons. Ils savent pas l'utiliser. Ils l'utilisent un peu n'importe comment et n'importe quand. Le film, comme vous le disiez, c'est une caricature, mais dans tout. Si on écoute, qu'on regarde le bonus comme nous l'avons fait, comme je l'ai refait une deuxième fois pour préparer ma partie, le réalisateur, qui d'ailleurs n'a pas son nom sur la jaquette, hein, soit dit en passant, donc je pense qu'il a eu tellement honte qu'il ne l'a pas mis, nous dit qu'il y a quand même des courses poursuites endiablées, endiablées au moins à 40 km/h, je pense.
Ouais, parce qu'ils roulent dans des espèces de voitures qui marchent avec des déchets, c'est
voilà,
ça
ouais. Un peu écolo, ouais, qui marche avec des déchets. À un moment donné, il y a le frangin, parce qu'il est poursuivi par les méchants, il met une bouteille insecticide qui doit au moins lui faire prendre 10 km/h. Oh mon Dieu ! La course poursuite endiablée. Puis les méchants, ils ont des gadgets complètement ringards.
Des jeux vidéo.
Par exemple, à un moment donné, le frère dans sa voiture, toujours dans la course poursuite, il va aveugler les ennemis avec une carte routière. Déjà, il balance la carte routière, forcément, elle tombe pile poil sur le pare-brise des ennemis.
Ah ouais, c'est,
mais les ennemis, ils ont un méga périscope qui leur redesigne tout l'univers en
3D, super réaliste.
En 3D, mais pourritier, pourri. Les images, c'est des
cultes des films.
Voilà,
ouais, c'est années 80.
Et ils jouent avec un joystick. Ils se déplacent avec un joystick.
Voilà, et puis ils disent en plus, tu sais pas bien jouer aux jeux vidéo, laisse-moi la manette, etc. Enfin, lamentable, à tel point que les crissements de pneus qu'on devrait entendre à la fin d'une course-poursuite, on les entend pas pour la voiture, on les entend pour les deux frangins quand ils courent, parce que forcément ils sont tout le temps en train de fuir au lieu de se battre. Donc ils courent et quand ils freinent, c'est là qu'on entend le bruitage de frein, quoi. C'est les baskets qui crissent, donc ça c'était fantastique.
Des Nike Air ou des Adidas Torchon.
Évidemment, comme Scott Wolf, c'est pas son fort, les arts martiaux. Et il va se battre un peu n'importe comment. Il envoie des ballons de basket dans les ennemis. Il casse une machine à chewing-gum, bubble-gum, qui va faire tomber les ennemis. Enfin, des trucs complètement ridicules. Robert Patrick, il a les cheveux bicolores. Enfin, c'est avec un petit bout qui est vraiment ridicule, je trouve. Mais ce qui est sûrement dû fait exprès, hein, je pense. Mais
quoique quand t'écoutes comment ils font le trailer, comment ils parlent de leur film après dans les
bonus. C'est ça. Mais je vais y venir. Et puis Alyssa Milano, à part le fait que référence peut-être à la petite culotte, qu'elle a un t-shirt moulant, que les deux frères n'arrêtent pas de regarder et qu'elle se balade sans soutif, elle a pas grand intérêt. Voilà. Et elle joue le rôle de Marianne, qui n'est pas une élève, hein, qui n'est dans le film, elle est chef de gang, mais d'un gang gentil. Alors justement, on va finir sur les mots de la série. Il y a des points d'humour fantastiques, du style un méchant qui dit c'est les frères Lee, dit les deux ramollos. Et l'autre il répond haha, parce que les deux ramollis. Pareil,
c'est pas Ellie qui a écrit les dialogues.
Mais non, c'est pas Ellie.
Bah justement.
Ouais, j'accélère un peu parce que j'en ai encore des bonnes avant la fin. Christina Wagner, donc la méchante à fouet, là, elle demande à Alyssa Milano. Elle lui dit, bon, alors en français, ça donne maintenant qui est le boss, qui peut être traduit par No, who is the boss, qui est le nom de Madame est servie aux États-Unis. Et Alyssa Milano, quelques minutes plus tard, qui reprend un peu du poil de la bête en la tabassant, lui dit « T'as de la chance parce que d'habitude, j'envoie les gens à l'hôpital. » Référence à Hôpital Central dans lequel Christina Wagner a joué pendant des années. Génial, les dialogues.
T'as bien suivi le film, toi.
Et pour finir,
t'as fait des recherches, hein.
Et pour finir, conclusion. Alors, il y avait la petite référence à la borne Double Dragon à un moment donné. Non, les deux frères se battent et envoient un méchant dans la borne Double Dragon. Donc ça fait bien rigoler aussi. Et moi, j'aimerais finir sur la conclusion donc du réalisateur dont on ne connaît pas le nom, à part si on fait des recherches, qui disait quand même que son film. Alors, il a dit deux trucs qui m'ont marqué. Que c'est un mélange de tous les genres. Donc déjà, je trouve que ça fait un peu poubelle, quoi. On a pris tous les genres, on a mélangé, on a checké, ça nous a fait un film. Mais surtout, c'est le croisement entre La Guerre des Étoiles et le film Tortue Ninja.
Oh, elle est bonne, ça. Si Tortue Ninja, c'est vrai.
Franchement, on a rigolé.
Ouais. Ouais, on était morts de rire.
Donc je pense que si vous regardez le film, allez voir le bonus. Il y a des trucs. Mais en plus, excellent. Les acteurs, ils parlent, ils sont
vachement
sérieux
dedans,
par rapport à leur film, quoi.
Ah ouais.
Donc voilà, c'était un pur bonheur, mais
avec l'épingle, je sais plus comment ça s'appelle, la broche, ouais. Et le morceau de médaillon, c'est juste ridicule à souhait.
Un pur bonheur, mais pas dans le sens d'un grand chef-d'œuvre.
Entre amis, ne regardez pas seul, sinon vous allez vraiment vous ennuyer.
C'est ça.
Est-ce que je peux encore dire quelque chose, si un tout petit peu le temps. Je vous ai pas dit, mais dans Double Dragon, donc dans la version arcade du 1, quand on bat le Willy, le boss de fin, après on a un true last boss, mais uniquement quand on joue à deux. Et qu'est-ce que c'est? On doit se battre l'un contre l'autre, et le gagnant, il obtient Marianne.
C'était vachement bien trouvé.
Alors que là, Marianne est plutôt pour le petit jeune.
Ouais. Okay. Le temps pour moi de vous dire que la semaine prochaine, on se retrouve pour une émission spéciale de Génération Prestart d'absolument 2 heures. Qu'entre-temps, je vais laisser les chromis à nos amis de Scud en Vrac, que vous pourrez retrouver sur le podcast de la radio, ben, comme je l'ai dit, Metal Gear. On se dit ciao ciao en musique en écoutant le thème All Nemesis Willy.
Salut à tous.
Salut.
M57 Radio.
Génération Prestart.
Génération Prestart.
Game over.